Meow.
Oh putain, tu fais super bien le chat.
Merci.
Alors mon con, t'avais encore la tête dans le fond de ton cul, hein?
Sarah Connor.
C'est à côté.
Sarah Connor.
Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en lande au lieu du ketchup?
Non, quoi.
La mayonnaise.
Les salauds.
Fais-toi un goût de pomme. Il y en a.
Oh, merde.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Il n'y a pas seulement que de la pomme. Il y a autre chose. Ça serait pas des fois de la betterave?
Oui, Londres. Vous savez bien?
Fish, chips, tasse de thé, bouffe dégueu, tant de merde, Mary Poppins, de mes deux, Londres.
Cannes, vous connaissez Cannes?
J'y suis allé quand j'étais scout.
Ah, je savais que vous étiez l'homme de la situation. Bonjour à tous et à toutes.
Salut!
Les hallucinés, Romain, Fabien en CFM. On va vous parler de Very Bad Trip 2, d'un castor qui a un sacré complexe, de Poupoupidou, de Green Hornet, de Cannes, de la plage, de Cannes, de la plage, les femmes, un bikini, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer peut-être là, non, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet.
Oui, oui, on va montrer tout ça sur pellicule. Voilà, là. Vas-y, déboule-moi ta pellicule.
35 mm. Alors, on va commencer avec Very Bad Trip 2, évidemment. Je pense...
Alléluia.
Alléluia. Je pense que c'était l'un des films les plus attendus de cette année, mais
tu parles.
En secret. Tout le monde l'attendait en secret. C'est-à-dire que c'est... Non, faut pas dire à ma femme que je vais aller le voir ce soir. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas autorisé. Non, c'est vrai. Enfin, bon, c'est pas du Marc Dorcel non plus, mais c'est vrai que là, quand même, Very Bad Trip 2, c'est la petite gâterie à aller voir à plusieurs avec du popcorn.
Avec même avec sa copine, hein, va apprendre beaucoup de choses.
Avec un peu de beurre dessus. C'est vrai, pas la copine, hein, le popcorn. Voilà. Donc, évidemment, de quoi ça parle, je ne vais pas vous le dire, tout simplement parce que, justement, tout ce qui fait le charme de ce film, c'est de ne rien savoir. C'est-à-dire que si vous avez aimé le premier, c'est-à-dire vous vous réveillez dans un hôtel face à une poule avec un tigre dans la salle de bain, eh ben, vous avez quand même envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et si vous regardez la bande-annonce, finalement, il y a toujours un effet de calcul. Ah, je me souviens, bah, j'attends de voir cette scène, finalement, je vais faire le ralliement. Ah oui, effectivement, ça c'est comme ça. Non, il faut que vous ne sachiez rien. Là, ça se passe à Bangkok. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un tatouage à élucider et un singe à ramener à son propriétaire et deux personnes à
retrouver. Le truc après aussi qu'on peut dire, c'est que ce coup-ci, c'est Stu qui se marie. Alors, Stu, pour situer, c'est celui qui porte les lunettes, qui avait une dent en moins et qui finit chez une Mike Tyson avec son tigre.
Ouais, non, on parle du premier.
C'était dans le 1. Donc, Stu va se marier et ils ont repaumé alors, le marié du 1 qui est devenu témoin. Voilà. Et qui vont retrouver à l'aide du chinois du 1 qui voulait les massacrer et qui là maintenant ils vont les aider parce qu'il est gentil.
Voilà. Ben, voilà. En fait, on va demander à la bande-annonce de mieux nous résumer la situation.
Salut tout le monde. Quelques faits à connaître. La population de la Thaïlande est de 63 millions d'habitants. Le pays fait deux fois la taille du Wyoming. Personne ne connaît Stu aussi bien que moi. Je peux même pas vous dire ce qu'on a vécu parce qu'on a fait un pacte. Mais je peux vous dire ceci. Ça n'est pas le premier mariage de Stu. Il y a une pute à Las Vegas il y a deux ou trois ans.
C'est bon, ça va comme ça. Assieds-toi.
Allez, viens boire un verre avec nous.
Vas-y, fais-moi plaisir. Emmène mon petit frère Teddy avec toi.
Ça, c'est une excellente idée. Amène le petit.
D'accord, mais juste un verre.
Bien joué, mon pote.
C'est bien de le dire.
Chi.
C'est quoi ces conneries?
T'as plus un poil sur le caillou? Non, au sommeil.
Fille, j'ai peur.
Stu, allez debout. On a un...
Oh, putain. Où est-ce qu'on est?
Tu vas flipper un match, mais y a rien de grave.
Oh, quoi? C'est mes dents, c'est ça?
C'est un vrai tatouage!
Alan, qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as drogué!
Mais non, j'ai rien fait!
Ah! Ah! Oh merde! Ah!
Oh, c'est un singe!
On s'en serait douté, oui, bien sûr que c'est un singe. Bon, voilà, quoi. Donc, le réveil difficile. Après, on vous laisse la surprise pour la suite. C'est vrai que ça vaut le coup. Parle-nous d'un petit père castor, raconte-nous une histoire.
Ouais, le film le plus bizarroïde qu'on ait attendu jusqu'à aujourd'hui. Alors, le complexe du castor. Alors que je restitue, il y a un an à peu près, Jodie Foster était venue en France nous parler de son futur film, Le complexe du castor. Nous parler d'un homme qui s'exprimait par le biais d'une marionnette en castor. Là, on se demandait, mais c'est bizarre ce truc, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, Jodie Foster? On n'est pas trop sûr. Eh bien, finalement, franchement, j'ai envie de vous dire que lorsque le film est sorti et que les critiques l'ont vu, ils ont été époustouflés. Parce que finalement, c'est l'histoire d'un homme dépressif qui a du mal à communiquer avec le monde extérieur et qui ne trouve que pour seule solution, justement, mais de pouvoir s'exprimer en toute sérénité par le biais de cette marionnette de castor. Et si le castor n'était pas là, alors là, il redeviendrait un gros abruti qui ne comprendrait rien aux gens et qui serait vraiment le pur asocial qui puisse exister.
Une forme de dédoublement de la personnalité, en fait.
Un petit peu, ouais. En gros, c'est ça. Elle explore les mécanismes de la dépression, de la schizophrénie. Et j'ai envie de dire, surtout, elle offre un rôle à Mel Gibson qui va relancer sa carrière, je pense, parce que déjà, moi, je fais un gros parallèle avec ce qui lui est arrivé en privé à Mel Gibson. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, Mel Gibson, là, ça fait 6 mois, 1 an qu'il ne tourne plus de films parce que tous les producteurs l'ont grillé à cause d'une petite histoire qu'il a eue. En fait, c'est qu'il, quand il boit, le monsieur, il a souvent tendance à lancer des injures racistes, antisémites et à frapper un peu sa femme. Donc, du coup, les producteurs, ils ont pas trop aimé.
Est-ce qu'il boit avec Lars von Trier?
Eh ben, je sais pas, je lui poserai la question hein, quand je croiserai Lars à la prochaine beuverie, hein, je te dirai ça. Mais bon, je raconte pas les coulisses, quoi. Donc, du coup, moi, je fais un gros parallèle, du coup, avec le film, parce que c'est exactement le rôle de Mel Gibson. C'est exactement le même personnage et l'un se confond dans l'autre. Donc, je pense que là, ça va donner quelque chose de vraiment énorme.
Petite forme de cure de désintox en bande-annonce.
Voilà.
Papa nous a quittés alors?
Il nous a pas quittés. Il valait mieux qu'on ne vive plus ensemble.
Un individu, profondément déprimé. L'homme qui fut amoureux et fonda une famille. Cet homme-là a disparu. Impossible de le retrouver, mais il s'apprête à trouver sa voie.
Je suis malade. La vraie question, c'est... est-ce que tu veux réellement guérir? Qui es-tu? Je suis le castor, Walter. Et je suis là pour sauver ta putain de vie.
Celui qui vous a remis cette carte a été confié à une marionnette thérapeutique, chargée de créer une distance psychologique entre lui et les aspects négatifs de sa personnalité.
Bonjour tout le monde, Walter Black démissionne et me nomme directeur général.
Un castor ?
Ça, c'est l'avenir.
J'aime bien comme tu parles, t'as une voix marrante.
Cette journée va te libérer.
C'est une blague.
Non, fiston, c'est un nouveau départ.
Pourquoi tu viens pas avec nous?
Une autre fois, mon grand. Une autre fois.
Tu sais, quand j'étais petit, mon grand rêve, c'était de devenir comme toi un jour. Et plus j'ai grandi, j'ai voulu devenir le contraire de toi.
Et maintenant?
Tu vas parler comme ça jusqu'à la fin de tes jours, avec ta main?
Donne-moi cette chair-ci, lâche-le!
J'ai guéri Walter. Cet homme-là était une impasse. Il a disparu.
Je me suis battu pour toi. Et je continuerai à me battre pour toi parce que je t'aime, Walter. J'ai été très patiente.
Oh.
Très compréhensive. Mais c'est toi que je veux. Pas lui.
Trompé par un castor, Manny, donc, moi je trouve quand même que...
Oh, un plan à trois avec un castor, ils se sont payés une sacrée bûche.
Une queue plate, hein. C'est vrai que... Bon, ouais, c'est...
Non, enfin, bon. Un film sans
pied très fin,
bon c'est sûr, c'est pas la comédie de l'année, bien sûr, c'est un drame, oui, c'est psychologique, mais ça fait du bien de temps en temps.
Oui, et... fait surtout pour la tête de Mel Gibson, quoi, faut voir sa tronche, quoi, c'est vrai que...
Oui, c'est sûr, mais ça c'est le genre de film... tu le regardes, tu pleures, tu sors de la salle, t'as le sourire, t'es content et tu vas boire un coup et tu dis merci chérie.
Eh ben tu vois, j'ai envie de parler d'un autre film où tu pleures aussi parce que moi, bon, comme je lance les films au cinéma à l'apéro, je crois que c'est l'un des seuls films où j'ai dû aller dans la salle à chaque fois pour écouter la musique d'introduction du film qui était complètement magnifique. Ça sort aujourd'hui en DVD, ça s'appelle Poupou Pidou avec Jean-Paul Rouve et Sophie Quinton. Alors le Poupou Pidou, c'est-à-dire que évidemment ça fait référence à qui? Ça fait référence à Marilyn Monroe.
C'est pidou, 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 pidou,
pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, pidou, p
Voilà, raté. Et bon, là, ici, il y a quelques références à Twin Peaks. Ça se passe dans la ville la plus froide de France qui s'appelle Mout. Me demandez pas pourquoi, ça ne s'invente pas. Et Jean-Paul Rouve est un écrivain quelque peu sur la fin, qui a besoin de se relancer, qui décide en fait de suivre la mort de cette femme qui était quelque peu une forme de vamp. Voilà, une vamp connue dans le coin, qui chantait, qui faisait quelques reprises. Elle est morte.
Monroe.
Voilà. Il décide de mener l'enquête et justement d'agrémenter son bouquin, de faire un peu comme de sang-froid Truman Capote, c'est-à-dire que là, c'est une histoire vraie qui suit au jour le jour. Et bien là, c'est pareil, sauf que là, on se retrouve avec un Jean-Paul Rouve complètement dépassé par les événements, avec un humour anglais et complètement décalé, très intéressant, c'est-à-dire on ne sait jamais si on doit rire ou si on doit s'inquiéter.
Ce n'est pas un film français.
Si, si, justement, c'est un film français. C'est un film français qui n'a pas marché du tout parce que le titre est comme... pas facile à retenir, l'affiche est pas particulièrement belle. Voilà ce qui peut arriver à des producteurs qui malheureusement ont envie de bâcler le travail de communication, même si voilà quoi.
C'est surtout que vis-à-vis du concept, ce n'est pas un film français. C'est original, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien ficelé. Il y a un bon scénario, des bons acteurs, donc c'est un bon film. Donc ce n'est pas un film français.
Parle-nous d'un réalisateur
Alors,
français.
Alors moi je vous parlais d'un réalisateur français, mais qui s'est expatrié à l'étranger depuis un petit moment.
Expatrié.
Oui, de temps en temps.
Il a
oui.
fait une exposition à Paris il y a deux
oui,
mois.
Oui, d'ailleurs, je t'en parle au Festival de Cannes, il va faire un truc avec... Enfin, je t'expliquerai après. Alors, Michel Gondry, qui nous a réalisé... Alors, The Green Hornet, première fois que ce garçon fait un film d'action. Alors, The Green Hornet, que je resitue un petit peu ce que c'est à la base. Alors, The Green Hornet, c'est juste l'histoire d'un milliardaire qui a perdu son pauvre papounet et qui compte réparer cette injustice en se battant contre le crime à l'aide de son fidèle majordome, le Chinois. Alors, le chinois joué par Jay Chou. Alors qu'il y a une petite histoire par rapport à Green Hornet, il faut savoir qu'à la base c'est une série télévisée des années 60 qui passait aux États-Unis et qui avait d'ailleurs pour star dans le rôle du majordome un certain dénommé Bruce Lee. Alors The Green Hornet reprend bien ce concept là, il s'en inspire largement. Michel Gondry vraiment se lâche d'un point de vue visuel, d'un point de vue scénaristique, bon c'est assez classique, les gentils contre les méchants, mais d'un point de vue dialogue c'est assez tordant. Un film à voir avec des bonus qui sur le DVD et le Blu-ray qui sont plutôt intéressants. Voilà, que dire de
c'est
plus
kitsch.
Sur ce film. Ah oui, c'est kitsch. Bon, si à part dire que le personnage principal, le milliardaire, mais dans la version de Gondry, entre guillemets, il ne sert à rien. Et que vraiment la part belle revient à Jay Chou, qui est vraiment exceptionnel, quoi. Voilà. À souligner que c'est avec Cameron Diaz et Christoph Waltz qui avait eu le prix d'interprétation pour son rôle nazi dans Inglourious
Basterds. Voilà.
Encore les nazis,
encore les Allemands sont partout. Et là, cette fois-ci, on va écouter un peu d'Audioslave, la puissance de Soundgarden, avec à la guitare Bob Moreno.
Dove Morello, Bob.
Oh, sat in regret of all the things I've done for all the...
Et voilà, nous sommes de retour à Cannes. Vous écoutez les mouettes, la mer, le vent.
Et connard, tu pourrais bouger ton lamborghini, s'il te plaît, ouais.
Et Dominique Strauss-Kahn.
Alors, bienvenue au Festival de Cannes. Oui, effectivement, aucun incident n'a été recensé dans les hôtels par rapport aux dames de ménage, que des problèmes d'overdose et d'alcool. Tout va bien.
Voilà, tout va bien. En France, voilà. À New York, c'est pas la même.
Non,
merci,
c'est pas la même.
Les voisins. Voilà.
Alors, Festival de Cannes. Donc, dans le J'aime, j'aime pas, nous avons parlé du palmarès. On va faire un petit retour vite fait dans les hallucinés. Alors, on va juste rappeler que la Palme d'Or, Tree of Life, l'interprétation masculine, Jean Dujardin, interprétation féminine, Keith Sundance, scénario, Footnote, réalisation pour Drive, ensuite, Grand Prix du jury pour Once Upon a Time in Anatolia et Le Gamin au vélo, et le prix spécial du jury qui revient à Police de Mai Wen. Voilà, ça c'était pour le
palmarès.
Voilà, le palmarès.
Voilà, mais tout le monde l'oublie ce mot en ce moment.
Ouais, mais moi je reviens de Cannes, tu sais, j'ai le cerveau à l'envers, ouais, il est toujours pas venu à l'endroit, là, j'ai un peu du mal, quoi. Non, juste pour dire que quand même ce festival a été quand même un très bon festival, parce que justement il y a eu plein de bons films et que du coup bah, tous ces bons films ont été récompensés, ce qui explique pourquoi le palmarès est aussi énorme. Que enfin, on ne voit plus trop de stars sur Cannes. Bon, on a juste vu Johnny Depp. Bon, c'est d'accord, mais encore, j'ai envie de dire, pour Pirates des Caraïbes, il a fait une montée des marches plutôt sobre. On n'a pas eu le Kung Fu Panda 2, donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'au moins, ça fait du carton-pâte en moins, même si ça va être un bon film. Après, bon, comme d'hab, on a eu Brad Pitt, qui a monté les marches avec son équipe pour Tree of Life, qui ensuite est redescendu pour faire coucou à Mémère et faire la pose photographique avec Mémère, et ensuite est remonté tout seul, laissant Mémère sur le tapis rouge. Ils sont géniaux, ces deux-là.
Non, toutes les femmes. Bon, moi, je tiens à le dire. Dès que j'ai vu les premières secondes de Tree of Life, je savais que c'était lui la Palme d'Or. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse. Évidemment, alors, le paradoxe, c'est un film qu'on aime ou qu'on déteste. Parce que moi, bon, je lançais le film et souvent, un quart d'heure après ou même cinq minutes après, il y a des gens qui sortaient, qui disaient « c'est nul, c'est incommensurable » ou quoi que ce soit. Il faut se remettre dans le contexte du réalisateur. C'est-à-dire que c'est un mec qui bosse chaque plan et le truc, il faut surtout pas chercher à comprendre. C'est comme un rêve ou quoi que ce soit.
Il faut se laisser emporter. Un peu ce qui s'est passé par rapport à Tree of Life. Donc déjà, on parle un peu du bonhomme, Terrence Malick. Juste pour préciser, il a fait 5 films, le gars, en 37 ans. Donc déjà, ça résume un peu qu'il a un peu du mal à mettre en image ce qu'il a dans la tête.
Son dernier film étant Le Nouveau Monde.
Et là, Tree of Life, c'est un film qu'il a dans sa tête depuis 30 ans. Donc c'était soit il se loupait, soit il réussissait le chef-d'œuvre de sa vie.
Alors il faut quand même savoir que à la base, celui qui devait jouer à la place de Brad Pitt, c'était Heath Ledger, qui était encore vivant à l'époque où il lui a demandé pour postuler pour le rôle. Et malheureusement, après Ledger s'est suicidé, donc il a été remplacé par Brad Pitt en tandem avec Sean Penn. Alors l'histoire, grosso merdo, c'est Brad Pitt, un homme qui ne sera jamais, qui n'arrivera jamais à être heureux. C'est-à-dire qu'il se rend compte finalement au fur et à mesure, un peu comme chaque humain, comme quand on fait de la philosophie ou quand on commence à se remettre en question, nous ne sommes qu'un grain de sable sur une plage au milieu d'un océan, nous ne sommes rien. Et quand ils s'en rendent compte, tout s'écroule et il n'a qu'une envie, c'est « mon fils, sois fort ». Et le problème, c'est que son fils, Jack, qui est évidemment beaucoup plus grand, sera interprété par Sean Penn, va lui aussi faire un tour sur lui-même, monter au-dessus des tours, observer tout ça. On va se retrouver sous l'eau, au milieu du Sahara, dans le ciel, dans les roches d'un volcan, dans une flamme. Évidemment, le spectateur peut être perdu. Il n'y a pas d'image ni quoi que ce soit. Il faut se laisser transporter.
Mais à travers le parcours du père et du fils, c'est un film qui parle de l'existentialisme, de la difficulté de vivre, et qui, en gros, fait une grosse métaphore tout le long du film sur justement les origines de la Terre, de la vie, de l'univers.
Amen.
Merci Terrence.
Voilà, c'était.
Non,
c'était...
par contre, le seul film qui aurait dû peut-être avoir un petit prix au Festival de Cannes et qui n'en a pas eu, et d'ailleurs ça a été une des grosses surprises, elle vient de Almodovar, La piel que habito, film avec Antonio Banderas, et ça faisait 26 ans que Banderas n'avait pas tourné avec Almodovar, donc ça me tentait un bon film. Le film est pas mauvais, c'est vrai qu'il est vraiment très bien, mais bon, tant pis, Almodovar. Reviens la prochaine fois, on verra ça.
Voilà. Et on va faire une petite bise sur la face droite de Jean Dujardin, qui a eu son prix d'interprétation, évidemment, dans un film muet. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Jean Dujardin marche à l'envers. Il a commencé avec la grosse comédie à gros sabots, la série télévisée. Ensuite, il a fait des comédies à la con. Ensuite, il a commencé à se poser avec OSS 117. Et il termine dans un film muet. Si vous regardez bien, en fait, c'est une chronologie inversée de l'histoire du cinéma. Donc là, évidemment, le prix, c'est bon. Il peut partir à la retraite. On le verra plus jamais. Bon débarras. Enfin.
C'est notre Benjamin Button à nous.
Voilà, c'est notre Benjamin Button à nous. C'est bon, il a fini sa carrière. C'est vrai que. On n'a plus envie qu'il ouvre la bouche. Hein. C'est vrai qu'il est très bien comme ça. Voilà. Et on va terminer rapidement. Moi, j'ai envie de dire que quand il y a des légendes qui s'en vont, de grands chanteurs qui ont une voix, une aura, une présence, j'ai qu'une chose à dire. Merci Pascal Nègre d'avoir voulu faire un best-of qui rend hommage à Alain Bachung, qui s'appelle Tell, et évidemment ramène toute la crème qui est produite par Universal, c'est-à-dire M, Dionysos, Benjamin Biolay, Vanessa Paradis, et j'en passe. Évidemment, j'ai qu'une chose à dire, la prochaine fois, fermez vos gueules, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une honte, cet album est une honte, ça devrait être interdit. Et moi je remercie seulement Arthur H d'avoir rendu un véritable hommage à Alain Bachung parce que c'était gratuit, c'était sur scène, c'était sincère et c'était avec le cœur. C'est tout ce que j'avais à dire.
Et moi je voulais juste te dire un grand merci à la famille Higelin parce que vous, tous les trois, les deux frères, le frère et la sœur et le père, vous êtes des génies. Et le génie dans une famille, mais voilà.
Le talent, c'est d'avoir.
Et je voulais juste quand même rappeler que c'est peut-être de la radio, mais ça va quand même se
voir.
Alors, salut et à la prochaine.
Les Hallucinés.
Madame Moëve, d'atomiseurs et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame Moëve, d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel, au ciel. Madame Rêve, Madame Rêve, Madame Rêve. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Madame Rêve, ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame Rêve, d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. De fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel, au ciel. Madame Rêve, Madame Rêve.